Le journal présenté par Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir. C'est un G7 un peu déséquilibré qui s'ouvre demain. D'un côté, un Donald Trump inflexible sur ses politiques et de l'autre, six pays dont la France qui tenteront de le faire rompre ou à minima ployer. Analyse du rapport de force avec Isabelle Labéry. Les Jordaniens, eux, ont fait céder leur premier ministre. Pas de chiffres supplémentaires sur leur feuille d'impôt. Jérôme Boruszewski nous expliquera. Puis nous joindrons notre invité pour nous pencher sur un rapport alarmant sur la cocaïne publié par un observatoire européen. Prévention, sensibilisation, coercition, quel mot en « on » détient la solution? Nous essaierons d'avoir une réponse. L'actualité en France est sociale avec ce plan du groupe Ford, difficile à accepter pour les 900 salariés d'un site en Gironde. Et puis les mauvais comptes arrangent les ennemis. Ces ristournes dont aurait bénéficié Emmanuel Macron lors de sa campagne continuent de faire parler. Donald Trump contre les autres, c'est ce qui se profile à la veille du G7 qui se tiendra au Québec. Les six membres restants tenteront de faire infléchir les politiques du président des États-Unis. Au centre des débats, notamment la question de la hausse des taxes douanières décrétée par Donald Trump, rien ne sera cédé sur les principes. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Emmanuel Macron aux côtés de son homologue canadien Justin Trudeau. Ils seront, eux, sur la même longueur d'onde jusqu'au bout, Isabelle Labéry.
Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont les mêmes mots pour leur partenaire américain. Un partenaire difficile face auquel ils n'ont aucune envie de transiger, quitte à se passer de son accord pour signer une déclaration finale à six pays seulement.
Et je crois qu'on ferait une erreur si on disait on est prêt à renoncer à tout, à plus dire qu'on tient à l'accord de Paris, au climat, au commerce, pour avoir cette signataire. Parce qu'à ce moment-là, on viderait de sa pertinence ce G7. Et donc il ne faut pas, par principe, s'interdire d'avoir un 6+1.
En matière de commerce, Justin Trudeau et Emmanuel Macron ne cessent de vanter les bienfaits du CETA, l'accord de libre-échange conclu entre le Canada et les Européens. Grâce à lui, les investissements canadiens en France ont augmenté de 23%. Alors invoquer la sécurité nationale, comme le fait Washington, pour justifier des taxes douanières, c'est risible, inapproprié, disent les deux hommes. Mais Donald Trump n'est pas éternel. Un jour viendra où les États-Unis retrouveront le cours de leur histoire.
Nos soldats se tiennent côte à côte pour défendre la liberté et nos valeurs. On ne peut pas, entre alliés, dans le contexte international que nous connaissons, décider de guerre commerciale.
Les dirigeants français et canadiens assurent qu'ils veulent malgré tout trouver une issue à ces tensions. Leur argument pour convaincre Donald Trump, à terme, le protectionnisme serait toxique aussi pour l'économie américaine.
Donald Trump qui, dans le même temps, s'est dit prêt aujourd'hui à inviter le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aux États-Unis. Une condition, ceci dit, que leur rencontre historique prévue le 12 juin à Singapour se passe bien. Il espère, il ajoute, une normalisation des relations entre son pays et la Corée du Nord. Et nous l'apprenons, la Corée du Nord a confirmé aux États-Unis son intention de dénucléariser, annonce du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Nous apprenons aussi qu'un Irakien réfugié en France a été arrêté en mars et mis en examen par des juges antiterroristes. Il le soupçonne d'avoir été un cadre du groupe État islamique, d'avoir participé à des massacres. L'homme a été placé en détention provisoire. Pas d'impôts supplémentaires pour les Jordaniens. Ils ont fait plier aujourd'hui le nouveau Premier ministre. Omar Al-Razaz a annoncé l'abandon du projet. Des manifestations avaient poussé son prédécesseur à la démission. Le mouvement était considéré comme la plus grosse grogne sociale depuis des années en Jordanie. Un nouveau Premier ministre qui multiplie donc les faveurs envers son peuple, Jérôme Boruszewski.
Ce n'est qu'une question de quelques jours. Dès que le nouveau Premier ministre aura formé son gouvernement, il retirera le projet de loi fiscale à l'origine du mouvement social en Jordanie. Le pouvoir satisfait donc une nouvelle revendication des manifestants. À l'évidence, le Premier ministre cherche à rassurer. Il multiplie donc les signes de bonne volonté. Aujourd'hui, par exemple, il a rencontré les syndicats qui ont organisé une journée de grève hier. Le dialogue social est donc rouvert. Le Premier ministre a promis de payer les salaires de juin des fonctionnaires avant la fête de l'Eid, la semaine prochaine. Et la presse locale indique aujourd'hui que la Jordanie va demander un délai supplémentaire au Fonds monétaire international pour mettre en œuvre les réformes économiques marquées par l'austérité qui ont déclenché le mouvement social. Le Premier ministre Omar Razaz joue donc l'apaisement, une stratégie qui fonctionne puisque la mobilisation est clairement en baisse, les rassemblements nocturnes attirent de moins en moins. Beaucoup de manifestants disent vouloir donner au Premier ministre un peu de temps pour agir. Ils indiquent tout de même qu'ils ne se satisferont pas seulement de paroles. Ils attendent des actes concrets pour soulager leurs difficultés économiques.
Jérôme Boruszewski et puis la Croix-Rouge se retirent en partie du Yémen. Son comité international l'annonce aujourd'hui. 71 personnes, cela représente plus de la moitié de son personnel sur place. Question de sécurité, avance la Croix-Rouge. Il y a 2 mois, l'un de ses collaborateurs au Yémen y avait été assassiné. C'est une petite poudre blanche qui alerte les autorités sanitaires. Davantage disponible qu'avant, plus pure aussi, la cocaïne se répand en Europe. C'est la conclusion d'un rapport annuel révélé aujourd'hui. Il est signé de l'OEDT, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Notre invité ce soir y est analyste Thomas Seller. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors quels sont les chiffres, les statistiques qui vous poussent à tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui ?
L'augmentation des saisies par les différentes polices au niveau européen, avec 98 000 saisies pour l'année 2016, plus de volume également avec près de 71 tonnes de cocaïne saisies dans l'Union européenne l'année dernière. Et comme vous l'avez dit, la cocaïne est de plus en plus pure, donc c'est aussi un signe alarmant. Une étude qui se fait dans 31 villes au niveau européen, qui consiste à analyser les eaux usées de ces municipalités, révèle également une augmentation de la concentration des résidus de cocaïne pour ces villes sur la période 2015-2017, donc ce qui indiquerait à confirmer l'augmentation non seulement de la disponibilité, mais peut-être aussi de l'usage en Europe. Donc il faut rester très vigilant.
Quels sont les circuits de cette cocaïne ? Par quel pays rentre-t-elle ? Passe-t-elle en Europe ?
Donc la cocaïne vient d'Amérique latine. Elle rentrait ces dernières années surtout par des pays comme l'Espagne. Ce qu'on note dans ces dernières années, c'est l'importance croissante de la Belgique comme et Anvers en particulier comme port d'arrivée de la cocaïne, avec pour l'année 2016 par exemple 30 tonnes saisies de cocaïne pour la seule Belgique.
Thomas Seller, on peut quand même se poser cette question, est-ce qu'il y a aujourd'hui assez de répression, assez de coercition sur ces dealers qui agissent parfois en toute impunité ?
Ce qu'on peut dire au niveau européen, c'est qu'il faut certainement donc continuer à faire pression sur les dealers. Ils s'engagent dans une activité illégale, donc la vente d'un produit qui peut causer des graves problèmes de santé parmi les utilisateurs. Ce qu'il faut dire aussi, c'est l'importance de mettre la pression sur l'ensemble de la chaîne, avec les circuits en amont, c'est très important. Ce qu'on voit au niveau européen, c'est aussi l'importance de mettre le focus sur la réduction de la demande, avec d'informer l'usager des conséquences néfastes de la cocaïne et de réduire les risques sanitaires liés à sa consommation.
Oui, c'est ça, c'est l'autre volet. Hein. Après la coercition, c'est la question de la prévention du consommateur. Est-ce que la réduction du trafic de cocaïne ne passe pas d'abord par un changement des pratiques de ces consommateurs ?
Tout à fait, il passe aussi par un changement des pratiques. Et donc c'est dire et répéter à la population que la cocaïne n'est pas un produit bénin, anodin, qu'elle peut avoir des conséquences très graves sur la santé, notamment des problèmes cardiovasculaires. C'est une substance qui peut déboucher sur de la dépendance psychique forte. Les données qu'on obtient à partir d'hôpitaux sentinelles dans 19 villes en Europe montrent que la cocaïne est une substance qui arrive en deuxième position pour ce qui est des arrivages aux services d'urgence dans ces hôpitaux.
Est-ce qu'on parle de cocaïne, hein, principalement dans ce rapport, mais il y a aussi ces autres drogues. Hein. On parle aujourd'hui beaucoup de l'ecstasy dans les soirées, du GBL aussi. Une petite nouvelle extrêmement dangereuse, hein, c'est un solvant industriel. Quelles sont les autres drogues qui vous préoccupent aujourd'hui ?
Ces substances qui ne font pas encore, qui ne font pas l'objet de mesures de contrôle au niveau global. L'Observatoire européen s'est doté d'un système d'alerte précoce qui permet d'identifier ces nouvelles substances. Pour ce qui est de l'année 2017, nous en avons détecté 51 nouvelles, donc presque une par semaine, principalement des cannabinoïdes de synthèse et des cathinones de synthèse. Nous en avons évalué le risque pour deux groupes principaux, les cannabinoïdes de synthèse et les opioïdes de synthèse, afin de permettre justement leur interdiction au niveau européen.
Et on peut se poser cette question hein, pour terminer. Est-ce que la guerre de la drogue n'est pas un peu une guerre perdue d'avance ? Parce qu'on pourrait avoir l'impression, on l'a déjà un peu évoqué avec les circuits, qu'à chaque nouvelle règle, chaque nouvelle mesure, les pratiques s'adaptent.
Les pratiques s'adaptent, tout à fait, les trafiquants s'adaptent, mais les méthodes de prévention s'adaptent. Je pense que le modèle européen, qui est basé principalement sur un équilibre entre la réduction de l'offre et la réduction de la demande et des risques sanitaires est une bonne approche. Donc la guerre n'est pas gagnée, mais la guerre n'est pas perdue. Il faut continuer. Au niveau européen, ce qui est crucial, c'est l'échange d'informations entre pays membres, avec le soutien de l'Observatoire, mais aussi, le soutien aussi d'autres agences comme Europol. Et c'est ce volet à la fois réduction des risques sanitaires, partage d'informations sur les méthodes de traitement et de réduction des risques qui fonctionnent, qui va permettre de réduire le fardeau lié aux drogues en Europe.
Merci beaucoup Thomas Seller d'avoir été notre invité dans cette édition du 22h sur France Culture. Je rappelle que vous êtes analyste à l'OEDT, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Le couperet est tombé pour le site Ford de Blanquefort en Gironde. Il fermera bien fin 2019 si aucun repreneur n'est trouvé. Quelque 900 employés pourraient perdre leur travail. Les précisions d'Ezequiel Fernandez.
Une date couperet, septembre 2019, peut-être la fin de 45 ans d'aventure industrielle en Gironde. Ford Europe joue avec les nerfs de ses 900 salariés, avec ceux aussi de l'État et des collectivités locales. Pour le constructeur, la priorité reste la recherche d'un repreneur. Et en même temps, il prépare les conditions de mise en œuvre de la pire hypothèse, la fermeture. Un double langage qui hérisse Gilles Lambersan, élu CGT au comité d'entreprise.
Nous, on est toujours sur la continuité de l'activité à FAI. On sait que c'est possible. Donc aujourd'hui, quel moyen Ford a laissé à un éventuel repreneur? On les a mis devant leurs contradictions, quoi. C'est difficile, quoi, parce qu'il n'y a aucune garantie de Ford de laisser de l'activité, le nombre d'emplois. Je veux dire, comment on peut négocier avec un repreneur sans donner un nombre d'emplois, l'activité qu'il peut avoir, voilà.
Alain Rousset, Jean-Luc Glaise, Alain Juppé, patron respectivement de la région Nouvelle-Aquitaine, du département de la Gironde et de Bordeaux Métropole, estiment que la décision de Ford est incompréhensible et inacceptable. Alain Rousset parle de faute industrielle.
Même si les jeux sont faits pour Ford, les jeux ne sont pas faits sur le plan industriel et sur l'activité industrielle de boîte de vitesse. C'est une vraie erreur industrielle ou une faute industrielle de la part de Ford de nous laisser tomber comme ça, et c'est vraiment le plus mauvais moment d'engager un PSE.
Les collectivités locales demandent à l'État de peser de tout son poids pour garantir la pérennité du site de Ford Blanquefort. Toute la question est de savoir si l'État a vraiment les moyens d'empêcher le pire.
Et 5 ans après son lancement, c'est confirmé. C'est le clap de fin pour BuzzFeed, le pure player, anglicisme pour désigner ces sites d'information nés sur Internet, annonce cesser toute activité en France. Concrètement, cela se traduit par 14 licenciements, soit l'ensemble du personnel. Raison avancée par la direction, cela ne rapportait pas assez d'argent et il y avait trop de concurrence. Laurent Berger, réélu aujourd'hui pour un nouveau mandat à la tête de la CFDT, 94% des voix, c'est un peu moins que les 98% d'il y a 4 ans. Aucune surprise, ceci dit, il était le seul candidat en lice. Des prix cassés, des ristournes cachées, des irrégularités seraient-elles passées sous les radars de la commission des comptes de campagne chargée d'examiner les dépenses du candidat Macron? C'est la conclusion d'une enquête France Info révélée aujourd'hui. Alors évidemment, Stéphane Robert, ses opposants politiques s'engouffrent dans la brèche.
Oui, le parti Les Républicains de Laurent Wauquiez va demander à la commission de réexaminer les comptes d'Emmanuel Macron. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui réclame, lui, l'ouverture d'une enquête, comme pour ses comptes à lui, qui font déjà l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Paris. Mais il apparaît, pour l'heure, assez peu probable que ces demandes soient satisfaites, étant donné que le président de la Commission nationale des comptes de campagne, François Laugereau, a déjà répondu. Il estime que ses rapporteurs ont bien travaillé, qu'il n'y a pas d'irrégularité. Et au début du mois de mai, sur ces ristournes constatées, la commission avait déjà conclu qu'elles étaient acceptables et qu'elles ne constituaient pas de participations illicites au financement. Il n'empêche que le candidat Macron a bénéficié de rabais sur l'allocation de plusieurs salles qui interrogent. Moins 75% pour le théâtre Bobino, loué 3000 euros au lieu de 13 000, ou encore 1200 euros payés pour la Bellevilloise, alors que Benoît Hamon, lui, pour la même salle, avait dû débourser 4800 euros. C'est ce qui fait dire à Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, qu'il y a rupture d'égalité entre les candidats. Mais tous ses adversaires politiques qui critiquent Emmanuel Macron ne sont pas en reste en la matière, puisque sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, 470 000 euros ont été retoqués, avec notamment des facturations litigieuses qu'auraient effectuées des proches du candidat. Quant au Front National, 870 000 euros de dépenses ont été invalidés, avec par exemple une facture de 160 000 euros pour l'impression de 4 millions de tracts. Ce serait apparemment 3 fois plus élevé que le prix du marché.
Plus de téléphone portable en salle de classe ni dans les cours de récréation, banni des écoles et des collèges. L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui la proposition de loi. L'interdiction sera effective dès la rentrée prochaine, proposition du groupe La République En Marche. Les autres, eux, dénoncent une opération de communication, voire une tartufferie. Et puis c'est devenu une information familière, diffusée dans nos journaux et par les haut-parleurs dans les gares SNCF. 28e journée de grève demain, un TER et un intercité sur deux, 4 TGV et 3 Transiliens sur 5. Pour la météo de demain, rebelote pour l'Est avec encore des risques d'orage. Ciel instable, averses plus intenses près des reliefs. Sur l'Ouest, on observera de belles éclaircies avec tout de même quelques ondées. Minimales entre 10 et 18 d'ouest en est, maximales de 17 à 26, jusqu'à 28 degrés près de la Garonne. Cette édition a été préparée avec l'aide de Caroline Beneteau. À la technique, c'était Jean Frédérix.